Chers auditeurs, bonjour. Nous voilà réunis dans cette émission La Voix des Chrétiens. Sur le plateau, nous avons le père Jean Vézel pour l'Église orthodoxe, Igoumène, qui demeure à Montauban. Le pasteur Erizo pour l'Église protestante, qui est pasteur à Nègrepelisse. Le père Jean Labro, prêtre diocésain du diocèse de Cahors pour l'Église catholique. Et moi-même, Jacques Allary, délégué diocésain à l'œcuménisme. Voilà, nous avons décidé, durant cette année, de vous parler de l'unité des chrétiens. Alors, nous allons parler de l'unité des chrétiens et de l'œcuménisme de manière plus générale, en suivant un parcours qui sera constitué d'abord, dans une première partie, par une définition de ce que nous entendons par le mot « unité ». Ensuite, nous essaierons de voir ensemble pourquoi cette, l'absence d'unité entre les chrétiens est considérée ou a été considérée comme un scandale. Puis, nous parcourrons très rapidement les grandes divisions qui ont été celles de la chrétienté et qui ont mis à mal cette unité. Nous examinerons ensuite la situation aujourd'hui de la chrétienté en termes d'église, de confession ou de communauté, de nombre de fidèles recensés et de théologies différentes. Nous verrons ce qu'a été le mouvement œcuménique et ce qu'il est actuellement. Nous chercherons à savoir où il en est aujourd'hui. Nous passerons en revue les points d'accord et de désaccord entre nos confessions et nous nous interrogerons sur l'exigence œcuménique actuelle et à venir, et surtout donc à l'avenir en un seul mot. Alors, commençons donc par le début. Qu'entend-on par unité des chrétiens? Alors, pour nous interroger sur ce point, repartons peut-être de la prière qui a été celle du Christ juste avant sa passion, que nous retrouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et au verset 11 à 26, et écoutons par la voix du père Labro ce que le Christ disait de l'unité.
« Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, moi, je les gardais en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon celui qui est voué à la perdition, pour que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je viens à toi, et je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie complète. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me consacre moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour ceci que je te demande, mais encore pour ceux qui, par leurs paroles, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es à moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous, nous sommes un, moi en eux, toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité, et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a jamais connu, mais moi, je t'ai connu, et eux, ils ont su que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, comme moi en eux.
Alors voilà, nous venons d'entendre cette prière du Christ, telle que relatée par saint Jean, dans laquelle le Christ demande à son Père de garder les chrétiens un et pas pour n'importe quelle mission, pour qu'ils témoignent au monde de l'existence de Dieu. Alors, quel est le sens de cette prière et qu'est-ce qu'il faut entendre par unité dans le contexte de la prière de Jésus? Jean-Paul II définissait ce sens de la manière suivante. Il disait « L'unité n'est pas secondaire, elle est au centre même de l'œuvre de Dieu. Dieu veut l'Église parce qu'il veut l'unité, car dans l'unité s'exprime toute la profondeur de son agapé. Les fidèles sont un parce que dans l'Esprit, ils sont dans la communion du Fils et en lui, dans sa communion avec le Père. C'est la Trinité. Les paroles du Christ, que tous soient un, sont donc la prière, disait Jean-Paul II, adressée au Père pour que son dessein s'accomplisse pleinement afin de mettre en pleine lumière le contenu du mystère tenu caché depuis toujours en Dieu. Croire au Christ signifie vouloir l'unité. Vouloir l'unité signifie vouloir l'Église. Vouloir l'Église signifie vouloir la communion de grâce qui correspond au dessein du Père de toute éternité. Tel est le sens de la prière du Christ. Voilà ce que disait Jean-Paul II. Alors aujourd'hui, chacune de nos confessions s'interroge sur ce mot unité. Père Jean Vézel, côté orthodoxe, comment pourrait-on définir plus précisément que nous venons de le faire cette unité au sens de la prière de Jésus?
Nous savons que l'évangile de Jean, c'est l'évangile le plus tardif. Hein, le plus tardif. Alors, de quel Jean s'agit-il? C'est une question qui est posée également. Est-ce le disciple bien-aimé ou un autre Jean? Parce que on nous parle quand même qu'il y avait deux Jean. Hein, il y avait deux Jean. Alors, bon, c'est un peu, je dirais, un peu secondaire. Mais lorsque Jean, ce Jean qui a écrit l'Évangile, il y avait déjà des communautés qui étaient constituées. Parce qu'il est tardif. Il y a des petites communautés qui, donc, étaient constituées. Nous savons déjà que lorsque le Christ était avec ses disciples et apôtres, mais il y avait déjà là des tensions qui existaient. Des tensions, et il suffit de rappeler le fameux passage des fils de Zébédée qui demandaient une place, enfin les mères, les mamans, qui demandaient une place particulière auprès du Christ dans son royaume. Donc il y avait déjà des tensions. Et à l'époque de l'écriture de l'évangile de Jean, donc il y avait déjà des communautés qui fonctionnaient, les petites communautés. Alors Jean reprend ce passage où le Christ demande l'unité. Moi, je crois d'abord que le Christ ne voyait pas parce qu'on Jean-Paul II parle de l'Église, il a raison, mais je ne pense pas que le Christ, à ce moment-là, pensait à la chrétienté de 2017. Je crois que son problème était qu'il y ait une unité dans le couple Christ et apôtre et disciple. Où il y avait donc des tensions. Alors, il y a quand même, je crois que, quand on lit ce passage, moi je donne une priorité à l'unité d'abord de ces petites communautés. Alors il ne faut pas généraliser et donner une priorité à cette parole comme si le Christ parlait pour l'Église 2000 ans après. Oui, il y a de cela, mais c'est insuffisant. Alors c'est à nous de voir de quelle unité le Christ parle pour nous aujourd'hui. Ce n'est absolument pas la même chose qu'au temps du Christ. Voilà mon opinion un petit peu.
Merci Père Jean. C'est vrai que le Christ était peut-être loin d'imaginer, enfin il devait l'imaginer, probablement les divisions qui diviserait ses disciples et que nous connaissons aujourd'hui. Pasteur Herizo, pour vous, quel est le sens de ce mot unité dans les paroles de Jésus ?
Pour ma part, avant d'aborder la question sur le plan communautaire ou interconfessionnel, j'aimerais soulever la question sur le plan subjectif et individuel, et de demander qu'est-ce qui donne cohérence et unité intérieure à une démarche individuelle et subjective, à une démarche de foi. Je pense à la parole de Jésus quand il répond à des questions, lorsqu'on lui demande « c'est qui mon frère, c'est qui ma sœur ?» Lui répond tout simplement « c'est celui qui fait la volonté de mon Père ». Ce qui me semble être une condition pour pouvoir vivre avec les frères à côté, c'est l'unité qu'on devrait, que chaque chrétien, devrait avoir avec le Père. C'est une condition pour pouvoir être frère et sœur avec les autres. C'est d'abord de souligner la filiation divine, l'unité avec le Père. Comme il l'a dit dans l'évangile de Jean, « Comme moi et le Père nous sommes un, j'aimerais aussi que eux ils soient un avec toi. » Donc une première condition, c'est le travail, l'identité spirituelle de chacun. Donc ce qui fait unité pour moi en premier, c'est l'unité que chacun devrait avoir avec le Père dans l'accomplissement de sa volonté. Et la condition, c'est la condition première, et ce qui déteindra certainement sur notre manière de vivre dans une communauté, en interconfessionnel. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, avant d'être pasteur ou protestant, l'unité se situe sur le plan spirituel et existentiel. Sur le plan spirituel, nous sommes tous chrétiens. On se réclame tous du Christ. Et sur le plan existentiel, nous faisons tous partie de la même patte humaine. C'est-à-dire que nous sommes marqués par la finitude. L'unité n'est donc pas d'ordre institutionnel, mais d'un autre ordre. Elle est sur le plan identitaire, fils d'humain, enfant de Dieu. Ainsi, l'unité dans laquelle chaque chrétien est appelé à vivre n'efface en rien la subjectivité ni la diversité. Mais pour cela, il faudrait tous reconnaître qu'il n'y a qu'une seule autorité, celle du Dieu de Jésus-Christ. Je l'entends plus donc sur le plan individuel avant que ça soit réel et concret sur le plan communautaire.
Père Labro, comment peut-on pour vous définir cette notion d'unité ?
Je pense que lorsqu'on parle d'unité, on entre dans la grande famille de ceux qui, en dépit de leur division, sont unis par la foi au Christ et sont marqués par un même sacrement, le baptême. L'Église qu'a voulu Jésus et qu'il a mis sur pied il y a 2000 ans est une. Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. C'est donc une assemblée de fils qui s'ouvre au don de l'esprit, un rassemblement de frères unis par la même confession de foi, le peuple de Dieu envoyé au monde pour lui porter un peu de la lumière du Christ. Jésus la voulait indéchirable, son Église, et il donne une référence, que tous soient un comme nous sommes un. Croire au Christ, c'est donc vouloir cette unité des frères chrétiens, l'amour seul uni et unifie. L'unité n'est pas faite, elle est à faire. Saint Cyprien écrivait « L'Église universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » En somme, l'unité est un reflet de Dieu Trinité.
Merci Père Labon. Donc nous allons terminer notre émission pour aujourd'hui. La prochaine émission sera consacrée, on a vu ce qu'on entendait par les uns et les autres par unité, ce que Jésus pouvait entendre par unité. Nous allons voir pourquoi alors les divisions aujourd'hui sont un scandale dans une prochaine émission. Merci à tous, à bientôt.